l'usine de rêve de l'univers, la Mecque du cinéma pour les uns, pour d'autres Babylone moderne, un Olympe peuplé d'êtres quasi divins aux yeux de millions d'admirateurs à travers le monde, a vu l'effet du scandale et de la calomnie, penché sur son berceau doré.
Des meurtres hollywoodiens postérieurs à 1929, un élément essentiel semble absent, le mystère. Après le délirant assassinat de William Desmond Taylor en 1922, les meurtres des années 30 sont ternes. Le dossier est bien rempli, mais le sublime absent. Deux gros producteurs sont assassinés par des gigolos qui s'enfuient avec leur fortune. On trouve des cadavres de starlettes violées sur les routes peu fréquentées de Malibu ou dans les recoins pittoresques de la MGM. On découvre parfois le cadavre d'un costumier de la Columbia, vêtu d'une saillante culotte de femme et le crâne ouvert, dans les cabinets notoirement fréquentés par les marins de Long Beach. Mais comme tout cela est peu original, des histoires aussi scabreuses se retrouvent dans les faits divers de toutes les capitales. Un meurtre seulement put prétendre égaler les fameux délires de l'âge d'or. Celui de Thelma Todd, l'ice cream blonde qui, habilement exploitée par la grande presse de Hearst, provoqua des remous dans le populaire. Thelma Todd, blonde comédienne de films burlesques, fut autrefois partenaire des Marx Brothers. Elle avait formé un tandem avec Zazu Pitts pour une série de comédies de Hal Roach, qui connurent un succès considérable. En 1935, on la trouva morte dans son cabriolet, ses vêtements en désordre, et portant toujours au cou son éternel collier de perles célèbre fétiche, enfermé dans le garage du metteur en scène Ronald West à Santa Monica. L'enquête aboutit à ce verdict étrange, mort par asphyxie au monoxyde de carbone, ce qui était dans la circonstance à peu près aussi digne de foi que la mort d'Ince par indigestion. Mais comme dans le cas de Taylor, les éminences grises des studios étaient intervenues pour étouffer le scandale. La justice californienne, comme celle de tous les temps, se montra quelque peu vénale. Il y avait en effet des détails bizarres qui correspondaient mal au verdict officiel. Puisqu'elle était morte asphyxiée, comment se faisait-il qu'il y eut du sang sur ses lèvres? Puisque la police assurait qu'elle était morte le samedi soir, comment des témoins pouvaient-ils prétendre avoir vu le dimanche la blonde Thelma au volant de sa voiture aux côtés d'un bel inconnu? Après un interrogatoire serré, le metteur en scène West finit par avouer que Thelma et lui avaient eu, plus tôt dans la soirée, une violente querelle, après quoi il l'avait jetée hors de chez lui. Pendant 10 minutes, Thelma avait martelé la porte à coups de pied, hurlant des obscénités à son intention, et sa fameuse voix perçante avait été reconnue par tous les voisins. Ces témoignages et les traces de coups de pied sur la porte verrent confirmer l'alibi de West, ce qui n'empêcha pas Hollywood de prétendre que Ronald West avait commis un crime parfait, voulant à tout prix se débarrasser d'une maîtresse devenue trop encombrante. On apprit alors que sa partenaire et grande amie Zazu, qui était d'une excessive générosité, avait prêté plusieurs milliers de dollars à Thelma pour lui éviter des ennuis, mais que les cervelets ne s'étaient pas empressés de les lui rendre. Thelma avait eu, en effet, besoin d'argent pour combler le déficit d'une boîte de nuit qu'elle gérait mal. Boîte que l'austérité des années de la récession empêchait de prospérer. L'avocat de la victime tenta aussi d'ouvrir une seconde enquête pour prouver qu'en réalité, Thelma Todd avait été assassinée par les tueurs à gages d'un gangster sicilien notoire qui avait mis sur pied en Californie un racket du jeu et qui avait voulu la forcer à accepter une salle de jeu clandestine et truquée dans son club Thelma Todd's. Devant ses refus réitérés, il avait juré de se venger. Saura-t-on un jour la vérité? Comme l'affaire William Desmond Taylor, l'affaire Thelma Todd demeure une belle énigme hollywoodienne. Avec le crash commença à Hollywood une véritable épidémie de suicide, symptôme évident de la recherche d'un ultime refuge où fuir un monde devenu hostile, indifférent. Une foule d'étoiles oubliées, de starlettes déçues, de figurants sans figuration, choisit ce trépas. Mais une touchante volonté d'originalité singularisa certains de ces suicides. Des has-been avaient endossé pour la minute de vérité le costume ancien de leur plus grand rôle. Une obscure starlette, Arletta Duncan, fit une belle sortie avec un suicide insolite. Dans le simple appareil d'un slip et d'un soutien-gorge pailleté, elle grimpa sur les hauteurs d'Hollywood jusqu'à la monstrueuse construction publicitaire. Une série de lettres géantes en tôle, hautes comme des maisons, et se profilant à la crête des collines sur 1 kilomètre. Hollywoodland, trouvaille ruineuse de Max Sennett, devenu agent immobilier hollywoodien. Arrivée au pied du royaume qu'elle n'avait pu conquérir, après avoir brûlé ses albums de coupures de presse, ses fan letters et autres souvenirs dans un terrain vague, cette créature sportive et désillusionnée escalada l'échafaudage qui supportait l'immense hache, lança de cet Olympe invaincu son mince costume à la foule absente des fans et se jeta. Elle atterrit dans un massif de cactus. Son agonie dura 4 jours, au cours desquels une équipe de médecins retira 1000 épines de son gracieux corps fracassé. Qualis artifex pereo. Vers 1930, on vit apparaître aux États-Unis un produit pharmaceutique qui bénéficia aussitôt de la plus grande popularité, une pilule somnifère appelée Seconal. Il suffisait de porter la dose à une dizaine de pilules pour sombrer sans douleur dans un sommeil définitif. Il y eut des centaines de suicides au second hall à Hollywood, où il était certain, pour des raisons particulières, que le produit serait bien accueilli. Figurants affamés, couturiers en proie aux maîtres chanteurs, mais aussi combien de célébrités. Parmi ce volontariat de la mort, comptons tout d'abord la star droguée Jean Eagles, 1929, Milton Sills, 1930, le jeune premier Robert Ames, 1931, la toxicomane Alma Ruben, 1931, l'acteur comique Carl Dane, 1932, la star du muet Marie Prévost, 1934, le metteur en scène de la MGM George Hill, 1934, l'étoile éclipsée John Gilbert, 1935, la star de la foule James Murray, 1937, le jeune premier de la Warner Ross Alexander, 1937, le metteur en scène Tom Foreman, 1938. Une deuxième vague apportera Julian Eltinge, 1941, le spécialiste des rôles en travesti. Le comédien Joey Jackson, 1942, la comédienne Lupe Vélez, 1944, l'acteur de composition Laird Kregar, 1945, la star de Hal Roach, Carol Landis, 1948, et encore l'interprète de Hitchcock, Robert Walker, 1951, et la Madame Ginsling de Sternberg, Ona Monson, 1956. Les tentatives spectaculaires les plus récentes sont celles de Susan Hayward, sauvée de justesse par un lavage d'estomac, ainsi que Diana Barrymore, 1955, Martha Ray et Judy Garland l'année suivante, et en 1957, Montgomery Clift et Mary McDonald dite The Body, Starlet toujours en mêle de publicité, après son fameux essai de kidnapping raté. La palme de la persévérance en cette matière revient de droit à Judy Garland, l'ex-star survoltée de la MGM, démolie par la drogue, et qui tenta à plusieurs reprises d'en finir par le seconal, par le gaz ou au rasoir, entre des séjours dans diverses cliniques de désintoxication. L'assistant et ami de Mureau, Herman Bing, mit fin à ses jours d'un coup de pistolet en 1947, comme auparavant Paul Bern en 1932 et Robert Harron, l'ex-protégé de Griffith, en 1920. Également en 1935, l'ex-star du muet Lou Tellegen mit en scène le plus atroce des suicides hollywoodiens. S'entourant des affiches de ses triomphes et de ses plus belles photos, il s'ouvrit la poitrine à coups de ciseaux, à l'exemple de Max Linder 10 ans auparavant. Tout l'esprit de ses suicides se trouve résumé dans une phrase du grand metteur en scène des musicals des années 1930, Busby Berkeley, qui déclarera, après avoir vainement tenté d'en finir en 1946 en se taillant dans les poignets à coups de rasoir, « There's no comeback for a has-been », plus question de revenir quand on est fini.